Laudetur Jesus Christus.
Le pape appelle à la paix et à la réconciliation au Soudan du Sud, pays qui lui est cher et qu'il avait visité il y a 2 ans, de nouveau menacé par la guerre civile. Nous y revenons juste après ces titres. Les secours continuent d'affluer en Birmanie après le grave séisme qui a fait au moins 1700 morts. Une opération délicate dans un pays en proie à la guerre civile, l'occasion d'établir un cessez-le-feu. C'est l'appel lancé, nous l'entendrons, par l'archevêque de Rangoon, le cardinal Beau. Dans ce journal également, la colère de Donald Trump vis-à-vis de la Russie. Le milliardaire a fait part de sa frustration devant les blocages d'une éventuelle trêve en Ukraine. Et puis dans notre dossier ce matin, notre invité est le père Donatien Ncholé, le secrétaire général de la CENCO, la conférence épiscopale de RDC. Il reviendra sur les efforts de médiation entrepris aux côtés des protestants pour faire revenir la paix dans l'est du pays.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Dans son message écrit pour l'Angélus hier, le pape François renouvelle ses appels à la paix dans des nombreux pays en guerre, Ukraine, Palestine, Israël ou Liban. Le pape qui exprime également sa préoccupation pour un pays qui lui est cher et qu'il avait visité, le Soudan du Sud. Dans le plus jeune pays du monde, les tensions ne cessent de s'aviver depuis plusieurs semaines, faisant craindre un retour de la guerre civile. Les précisions de Xavier Sartre.
Je renouvelle mon appel sincère à tous les leaders pour qu'ils s'engagent au maximum à baisser les tensions dans le pays, écrit François. Il faut mettre de côté les divergences et avec courage et responsabilité s'asseoir autour d'une table et lancer un dialogue constructif, poursuit-il, affirmant que c'est la seule voie pour soulager les souffrances de la population et pour construire un futur de paix et de stabilité. Alors que les tensions de ces dernières semaines ont culminé avec l'assignation à résidence du vice-président Riek Machar, rival pendant la guerre civile du président Salva Kiir, le pape espère qu'il n'est pas trop tard pour éviter la reprise d'un conflit qui déchira le pays de son indépendance en 2013 à 2018. Le Soudan du Sud est d'autant plus cher à son cœur qu'il s'est engagé personnellement pour pacifier le pays. Tout d'abord en avril 2019, en invitant Riek Machar et Salva Kiir au Vatican pour une retraite spirituelle avec les représentants des églises anglicanes et presbytériennes. Le pape s'était même mis à genoux pour baiser les pieds des deux anciens chefs de guerre. Et puis, en 2023, François avait enfin pu se rendre à Djouba pour continuer d'exhorter dirigeants et populations à déposer les armes de la haine et de la vengeance, à surmonter antipathie et aversion, à mettre le sel du pardon sur les blessures. 2 ans plus tard, les Sud-Soudanais semblent avoir oublié cette sollicitude du pape.
Xavier Sartre, François qui porte également son regard plus au nord, au Soudan, en pleine guerre civile depuis bientôt 2 ans. Ces derniers jours, l'armée régulière a repris aux paramilitaires des forces de soutien rapide, la capitale Khartoum, les FSR qui contrôlent la région du Darfour ainsi que plusieurs zones du sud du pays. Le pape exhorte les belligérants soudanais à épargner les civils et souhaite que de nouvelles négociations soient lancées le plus rapidement possible. Poursuivant sa convalescence à la maison Sainte-Marthe dans le respect des prescriptions médicales, François, dans le texte transmis hier aux fidèles, les invite à vivre ce carême et plus encore le jubilé comme un temps de guérison. En ce dimanche de l'étaré, le dimanche de la joie, le Saint-Père a également remercié tous ceux qui, à l'image du Sauveur, sont des instruments de guérison pour leur prochain. Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver à une seule adresse, vaticannews.va. Les secours continuent de s'organiser en Birmanie après le violent séisme qui a touché le pays ce week-end. Le dernier bilan dressé par la junte birmane est d'au moins 1700 morts, 3400 blessés, 300 disparus. Mais l'ampleur de la catastrophe est encore bien difficile à évaluer. Les pays voisins comme la Chine, les Philippines ou la Corée du Sud ont déjà envoyé sur place des équipes médicales. L'Indonésie doit faire de même ce lundi. La Birmanie, pays pauvre et en guerre civile et où il est donc bien difficile d'acheminer l'aide humanitaire. C'est ce que nous explique le cardinal Charles Mongbo, l'archevêque de Rangoon, interrogé par nos confrères de la rédaction anglophone de Radio Vatican.
Comme le pays est en proie à des guerres civiles, l'aide pourrait être entravée par les troubles causés par les groupes armés. J'entends par là toutes les parties, des deux côtés. Par conséquent, la réconciliation, le dialogue et la paix seraient la seule solution. Pour l'instant, le personnel de l'Église et les groupes religieux sont le meilleur moyen d'apporter de l'aide aux personnes dans le besoin. Le pays est en proie au désespoir. Les défis sont nombreux, mais l'opportunité d'un autre monde est possible. Une autre Birmanie est possible. Le peuple de Birmanie veut la paix. La paix dans la justice est le plus grand défi à relever. Par conséquent, le plus grand besoin est la paix et au moins un cessez-le-feu pour répondre aux besoins fondamentaux de tous nos concitoyens. Je lance un appel à tous ceux qui se sont opposés les uns aux autres pour qu'ils se rassemblent et essuient les larmes de chacun. La nourriture, les médicaments et les abris sont des besoins urgents. Pour cela, un corridor humanitaire est nécessaire. J'espère que tous ceux qui sont sur le terrain continueront à le soutenir. La libre circulation de toutes les fournitures et le soutien apporté par d'autres pays doivent être facilités. Rendons cela possible en assouplissant toutes les contraintes. Accueillons tous ceux qui viennent dans notre pays pour apporter leur aide et assurons la sécurité nécessaire pour atteindre les personnes les plus touchées.
Le cardinal Beau, archevêque de Rangoon, interrogé par Déborah Castellano-Louboff. Benjamin Netanyahou nomme un nouveau directeur à la tête du Shin Bet. C'est Eli Sharvit, l'ancien commandant de la marine, qui devrait succéder à Ronen Bar. Le limogeage de ce dernier a provoqué une profonde crise politique en Israël et jeté des milliers de manifestants dans la rue. Israël qui continue sa pression sur la bande de Gaza, une pression militaire avec toujours des pilonnages intensifs de son artillerie. Hier, le Croissant Rouge palestinien a annoncé la mort de 15 de ses secouristes dans des frappes qui ont visé des ambulances. Pression politique également sur Gaza. Le premier ministre israélien Netanyahou a exhorté les responsables du Hamas à déposer les armes, assurant qu'ils seraient autorisés à partir si c'était le cas. Des propositions rejetées par les leaders du parti islamiste palestinien. À Jérusalem, les précisions de Valérie Ferrand.
Les responsables du Hamas ont rejeté en bloc les déclarations du premier ministre israélien consistant à négocier tout en continuant à tuer et à affamer les populations civiles dans une bande de Gaza déjà détruite en quasi-totalité. Khalil al-Hayya a exclu que le mouvement dépose les armes et que ses chefs présents dans la bande de Gaza partent en exil selon les buts de guerre annoncés par Benjamin Netanyahou, qui prévoit également qu'Israël assurera la sécurité sur place après le départ du Hamas pour mettre en œuvre ce qu'il appelle le plan Trump, consistant à vider la bande de Gaza de sa population palestinienne. Un plan qualifié de satanique par Sami Abu Zohri, qui précise qu'il n'est en fait qu'une nouvelle version des plans israéliens d'expulsion des Palestiniens en les massacrant et en les affamant, assurant que ce plan, comme les précédents, est voué à l'échec. Selon Khalil al-Hayya, de nouveaux échanges de prisonniers sur fond de trêve sont en cours de discussion, de même que la formation d'un comité formé d'experts palestiniens pour gérer la bande de Gaza après la guerre. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'Iran n'entend pas céder aux menaces des États-Unis. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, promet ce matin une riposte ferme en cas d'attaque contre son pays. Une réponse sans le nommer directement néanmoins à Donald Trump, qui avait menacé Téhéran de bombardement si les négociations en vue d'un accord sur le dossier nucléaire venaient à échouer. Le président américain, frustré lui, est en colère, en particulier contre la Russie de Vladimir Poutine. Dans une interview donnée hier à la chaîne NBC, Donald Trump semble accuser Moscou d'être responsable de l'échec des négociations qui visent à aboutir à un accord de paix en Ukraine. Le milliardaire menace donc d'imposer à nouveau des sanctions contre la Russie et son secteur pétrolier en particulier. Les précisions à New York de Loïc Lory.
Des sanctions à grande échelle contre la Russie, Donald Trump en faisait planer la menace déjà il y a quelques semaines. Le président pourtant n'est jamais passé à l'acte et rien ne laisse présager que les choses cette fois seront différentes. Hier, il affirmait malgré tout être furieux contre Vladimir Poutine. C'est la faute de la Russie, dit-il, s'il n'y a toujours pas d'accord de paix. Donald Trump menace donc Moscou de droits de douane sur tout le pétrole qui sortira du pays. Et le milliardaire, ce week-end, avait visiblement envie d'en découdre, multipliant les mises en garde envers la terre entière. Il y aura des bombardements en Iran, dit-il, si les négociations sur le nucléaire échouent. Une intervention militaire n'est pas exclue au Groenland. Et pourquoi pas enfin, s'interroge-t-il, un troisième mandat à la Maison-Blanche, interdit par la Constitution. Il y a, promet-il, des méthodes pour faire ça. New York, Loïc Lory, Radio Vatican.
En Guinée, le président de la transition a signé ce week-end un décret de grâce présidentielle en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara. Il était le chef de la junte militaire en 2008. Ce dernier avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, la capitale. Et Moussa Dadis Camara a déjà regagné son domicile. Nous y reviendrons dans notre édition à 13h. Le pacte pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, lancé mi-janvier par les églises catholiques et protestantes congolaises, entre désormais dans une phase de sensibilisation accrue après l'échec de l'initiative de dialogue du président angolais. João Lourenço n'est pas parvenu en effet à mettre autour de la même table des négociateurs du gouvernement congolais et du mouvement rebelle M23. Alors que ce groupe paramilitaire continue à occuper les villes de Bukavu et Goma, dans le Kivu au nord-est de la RDC, l'initiative des églises congolaises vise à faire revenir la paix dans l'est du pays. Une démarche parallèle et différente de celle entamée par le Qatar, où se sont rencontrés le 18 mars dernier les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Invité de notre dossier ce matin, Mgr Donatien Tshole, secrétaire général de la CENCO, la conférence des évêques du Congo. Il revient sur la nécessité d'ouvrir une réflexion avec des experts et des acteurs internationaux sur la gouvernance de l'État en incluant le M23, une inclusion qui n'a pas toujours fait l'unanimité dans l'Église, la société civile et jusqu'au sein de la communauté internationale. On l'écoute.
Cette initiative conjointe Église catholique, Église protestante vient après d'autres approches que nous avons eues de la même crise. Les deux Églises ont eu affaire de plaidoyer à l'interne comme à l'externe, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations unies, pour obtenir la condamnation, les sanctions du Rwanda du M23. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et continuer à réfléchir sur la situation, les deux églises se sont dit non, il y a quand même quelque chose qui nous est propre, que nous n'avons pas encore exploité, c'est les dialogues. Et ces dialogues-là, généralement, l'initiative était prise par les politiciens, et puis ce dialogue était régi par les agendas politiques. Cette fois-ci, c'est la société civile par les deux églises qui prennent l'initiative. Cette fois-ci, on dit qu'il ne s'agit pas de partager le pouvoir, sinon ce serait vraiment cracher sur le peuple congolais. Il faut aller analyser les causes profondes de la crise.
Mais vous dépensez en tout cas beaucoup d'énergie dans cette sensibilisation en associant des acteurs hors du pays, hors de la sous-région. Vous avez été en France notamment, peut-être que vous serez aussi ailleurs. Qu'est-ce que ces autres acteurs hors de l'Afrique peuvent apporter dans cette situation?
Nous avions déjà pensé à l'origine de voir les acteurs de la communauté internationale parce qu'il y a un volet international de la crise. Mais il y a une deuxième raison qui nous a poussé à urger ce contact avec le pays étrangers, c'est qu'en consultant à l'interne, l'opposition et une bonne partie de la société civile ont réagi en disant « C'est vrai, le dialogue peut être une solution, mais dialoguer avec qui ? Il n'y a pas de garantie de dialoguer avec le président Tshisekedi. » À cela, nous avons pensé qu'il y a quand même deux niveaux de garantie. Il y a des garanties qu'on peut se donner dans le consensus, mais il y a une garantie qu'on peut trouver au niveau international, c'est-à-dire si l'initiative est portée par la communauté internationale, c'est une garantie, pas de moindre.
Il y a eu plusieurs démarches, non? Il y a la vôtre, mais il y a eu aussi la médiation angolaise, il y a la pression de la communauté internationale. Récemment, nous avons vu la médiation qatarienne. Est-ce qu'on ne se trouve pas dans une sorte de confusion, finalement, qui empêcherait les dénouements des violences? Par exemple, les sanctions européennes qui sont tombées la veille de la rencontre avortée de Luanda.
Je vois plutôt une conjonction d'intérêts, mais qui exige quand même une centralisation pour ne pas se perdre. Alors, l'initiative tentée à Luanda et à Qatar, c'est quelque chose qui nous réjouit parce que c'est sur ce point-là que nous n'étions pas compris. Dès qu'on a émis on s'est exprimé sur la nécessité d'un dialogue direct avec l'M23, on nous a traités de tous les maux. L'initiative qui a été prise en Angola par le président Lourenço, dommage qu'il a jeté l'éponge, et au Qatar, je crois que ça nous donne raison. Et ça, c'est une grande satisfaction. Maintenant, on est dans une autre approche, le dialogue. Vous allez condamner quelqu'un, vous êtes mauvais, vous êtes méchant, et puis vous lui dites, venez, on va se parler, ça va marcher. Voilà pourquoi pour nous, dans le contexte actuel, dans le contexte de notre initiative, les sanctions seraient contre-productives. Et nous l'avons expérimenté. Si le M23 a boudé en Angola, c'est parce que la veille, il y a eu des sanctions.
Interrogé par Stanislas Cambachi, Monseigneur Donatien Tcholé, le secrétaire général de la CENCO, la conférence des évêques en République démocratique du Congo, était l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h heure de Rome pour une nouvelle édition. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.